Thank you, Chris.
Merci, Chris et John, de vos présentations fort intéressantes. Je crois qu'ils méritent une autre belle main d'applaudissement.
Thank you. I would now like to invite.
Merci. J'aimerais maintenant inviter Miguel Angelos, qui est un chercheur à l'École Polytechnique. Il est membre du Centre de recherche multi-universitaire général. Il est directeur de l'Institut de l'énergie trottier. Il sera l'animateur de la période de questions et de réponses. Je vous cède sans plus tarder la parole. Merci. Nous avons maintenant le temps de prendre quelques questions. Je vais répéter que vous pouvez poser vos questions en français et en anglais. Il y a des micros dans les allées. Je vous demande d'aligner au micro pour poser vos questions. Soyez concis avec vos questions pour que nous puissions avoir le temps de prendre le plus de questions possible. J'aimerais maintenant inviter M. Lorne Trottier à poser la première question.
Okay, thank you.
Merci. Vos présentations étaient très intéressantes. En écoutant Chris, j'avais l'impression que vous estimez que nous faisons déjà beaucoup de progrès. Il y a des bons exemples d'initiatives qui vont dans la bonne direction. J'aimerais vous poser la question 2. Croyez-vous que le déplacement vers des villes plus durables va se produire tout naturellement à cause qu'on voit des modes de vie plus agréables et que nous voyons des environnements urbains plus conviviaux? Ou croyez-vous que nous avons vraiment besoin de plus grandes interventions pour avoir des changements, soit par des politiques gouvernementales? Est-ce que le gouvernement doit amener des incitatifs tels que des taxes au carbone et d'autres normes d'efficacité pour nous pousser dans la bonne direction plus rapidement? Je crois que les politiques gouvernementales seront peut-être nécessaires, mais vous savez, la génération millénaire aime vivre dans des endroits axés sur le déplacement. Et les baby boomers n'aiment plus nécessairement leur vie solitaire en banlieue. Les baby boomers souhaitent aussi vivre dans des endroits plus petits, mais plus proches du centre-ville, et dans des endroits plus vibrants. C'est une tendance qui se produit au moment où on se parle. Il y a eu un sondage auprès des associations nationales des agents immobiliers. Et ce que nous avons trouvé, c'est que ce que les constructeurs fabriquent, ce n'est pas exactement ce que les acheteurs veulent. Et donc, c'est assez curieux. Si on pouvait envoyer le message aux entrepreneurs, peut-être qu'ils pourraient mieux répondre aux besoins. Pensez au vieux style. On songe à l'Europe, les anciennes villes d'Europe. Il y avait un puits et il y avait un kilomètre de rayon autour du puits. Tout devait être à un kilomètre au moins du puits central. Et je crois qu'il y aura un mouvement dans cette direction. Il faut tout simplement énergiser la communauté, soit les entrepreneurs ainsi que les citoyens qui souhaitent vivre dans cet espace. Je crois que ces initiatives se font sur la proposition de valeur, l'aspect social et le récit qui se cache derrière. Et la deuxième partie, c'est que le modèle conventionnel est en train d'échouer. Je vais prendre l'exemple de la ville de Calgary. Lorsque j'ai déménagé à Calgary en 2003, la plus grande priorité de l'hôtel de ville, c'est d'avoir une plus grande infrastructure pour la voiture. Et la nouvelle priorité, c'est d'avoir une meilleure infrastructure de transport commun. Car nous sommes rendus compte qu'il y a une limite dans le nombre de voitures qu'on peut déplacer sur un territoire donné. Monsieur l'a dit, étant dit, au niveau civique, juste changer la réglementation qui pose obstacle au développement durable, c'est déjà une priorité. L'autre incitatif, c'est de rendre les économies de carbone plus attrayantes. Et pour le faire, il faut mettre un prix sur ce carbone. Beaucoup d'entreprises à Calgary prévoient l'avenir avec un prix donné du carbone. Sans aucun doute, des belles innovations, c'est souvent Vancouver, dans l'innovation en Colombie-Britannique, mais cette innovation est liée à la première taxe efficace du carbone en Amérique du Nord. Dans notre pays, nous avons eu une conversation très immature sur le coût du carbone. Et nous devons rétablir cette discussion afin d'avoir une discussion d'adulte entourant la taxe au carbone. Veuillez citer votre nom et votre question clairement. Est-ce que je peux poser une question et faire un commentaire quant au sujet? Soyez bref. Puisque je connaissais la majorité des projets dont vous avez parlé, je me suis constaté qu'il y a une grande participation citoyenne dans ces projets. Et pour répondre à la question, si on a besoin d'intervention gouvernementale, oui, car l'intervention gouvernementale peut stimuler les projets, mais l'intervention gouvernementale peut aussi poser des problèmes. Certains de ces projets étaient des initiatives citoyennes, et ce sont les personnes qui ont façonné le projet dans son ensemble. Donc, je crois qu'il faut que l'innovation vienne de la base et vienne des citoyens. Je m'excuse. Donc, je voudrais poser une question sur un autre sujet. Vous avez tous les deux mentionné les voitures et que les voitures pourraient avoir des batteries comme système d'entreposage décentralisé. Mais je sais que les batteries vont toujours perdre d'énergie. Qu'en est-il de la perte d'énergie lorsqu'on a la circulation va-et-vient d'énergie? Mais à chaque fois, il y a des pertes d'énergie. Donc, à chaque fois, on va juste soustraire un peu d'énergie, mais il y aura toujours une perte nette d'énergie. Je vais répondre brièvement. Peut-être que Jean pourra répondre du point de vue de l'ingénierie. Si on comparait le système à un système 100% efficace, ce serait un problème, mais notre système en soi est très inefficace. Juste la perte de chaleur dans les usines de production d'électricité est un grand problème. Non. Je crois que ce n'est pas une lacune. Quand les ingénieurs du Danemark se penchent sur le problème, ils n'ont pas vu des pertes d'énergie assez importantes pour que ce soit un problème. Et les entreprises qui cherchent à développer cette technologie ne voient pas cette perte d'énergie comme étant un obstacle de mise en marché. Je pense que vous avez bien répondu à la question. Bien sûr, avec l'entreposage, il va y avoir une certaine perte d'énergie avec les batteries, mais ce ne sera pas une quantité énorme comparée aux usines de production d'électricité centralisée. Et il ne faut pas oublier qu'on utilise à peu près 15 terawatts d'énergie comme utilisation d'énergie primaire. Le soleil, c'est 186 000 terawatts d'énergie. Donc, il y a beaucoup d'opportunités pour des énergies renouvelables. C'est juste un des éléments dont on doit garder à l'esprit. J'aimerais répondre à un point que vous avez fait, M. Crittenden, par rapport à la population. Bien sûr, la croissance démographique est un enjeu important. Les prévisions les plus récentes de l'ONU montrent que la population mondiale ne se stabilisera pas même avant les années 2070. La population mondiale pourrait atteindre jusqu'à 10 milliards d'habitants. C'est monter la relation entre la fertilité totale et la mortalité infantile. Est un signe très encourageant. Ce que ça démontre, c'est avec la réduction du taux de mortalité infantile, les parents sont plus confiants que leurs enfants vont survivre jusqu'à l'âge adulte et par conséquent, ils ne ressentent pas le besoin d'avoir autant d'enfants. Et je ne crois pas honnêtement que 80% de la population mondiale vont atteindre les niveaux de consommation qu'on a en ce moment, car on va avoir épuisé les ressources. C'est pas ce qui va arriver. Mais ce qu'il faut faire, c'est augmenter légèrement leur consommation avec leur accès aux énergies propres et à l'eau potable. Alors, moins ils ont accès à ces ressources, plus ils ont besoin d'enfants dans les ménages, ce qui augmente la démographie et les taux de natalité. Est-ce qu'il y avait une question? C'était plutôt un commentaire. C'est seulement un commentaire que nous aimerions prendre. Mais je suis tout à fait d'accord. C'est bien dit. J'ai donné ma présentation de façon très succincte. Je ne dis pas qu'on voudrait que les 9 milliards d'habitants utilisent le même nombre de ressources par habitant que nous, mais ils ont aussi le droit à un mode de vie significatif et important. On veut que les personnes puissent atteindre un niveau de vie intéressant. Et ça me rappelle le Bhoutan. Si vous avez entendu parler du Bhoutan, au Bhoutan, ils ont une autre mesure. Au lieu de parler de produit intérieur brut, ils parlent du bonheur intérieur brut. Et j'ai une diapositive sur le niveau de bonheur et le contrôle sur les ressources. On l'appelle pas l'affluenza pour créer avec la poursuite inutile pour obtenir plus. Et si vous avez autant un niveau donné de ressources que vous pouvez maîtriser, vous n'êtes jamais assez, vous augmentez, vous augmentez, vous ne serez jamais heureux. Et on ne prend jamais le temps de s'arrêter et se demander quelles sont nos attentes et comment peut-on gérer ces attentes afin d'avoir une vie utile et productive tout en étant heureux. Mais bon, c'est une autre façon d'aborder la question. Donc, vous avez raison, une petite augmentation dans leur mode de vie, ça sera peut-être pas autant dans notre consommation, mais peut-être que nous, on peut être aussi heureux en consommant moins. Donc, c'est une question de gérer les attentes et les ressources. Nous avons de moins en moins de temps, mais il reste des questions. Merci de vos présentations. J'ai une question sur le système de chauffage et de production d'électricité combinée. Étant donné les pertes de chaleur est plus grande durant la transmission que la perte d'électricité, je peux imaginer que ces systèmes de production de chaleur et d'énergie devraient être à proximité des consommateurs. Je voudrais savoir s'il y a des problèmes de pollution sonore provenant de ces systèmes combinés de production de chaleur et d'énergie. La deuxième question concerne les voitures électriques. C'est très intéressant pour moi. Par exemple, la Tesla a été créée aux États-Unis. Au Québec, nous avons l'hydroélectricité, nous avons l'électricité propre. Mais aux États-Unis, on dépend beaucoup des usines de production d'électricité au charbon. Et je ne crois pas que l'électricité est aussi propre. Est-ce que les voitures électriques sont écologiques? La voiture électrique est seulement aussi propre que sa source d'énergie. Mais si la voiture électrique remplace un moteur à combustion interne, il y a un gain en cycle de vie. Donc, la première partie de ma présentation, c'était de se défaire des voitures. Je crois qu'on devrait réduire la présence des voitures dans nos vies quotidiennes, mais les voitures se représentent dans un avenir rapproché encore. Donc, la réduction de gaz à effet de serre qui sort des tuyaux d'échappement est un gain net. L'autre élément qui me plaît de la voiture électrique, c'est que même si ce n'est pas nécessairement la solution, c'est peut-être une partie de la solution. Les voitures accomplissent un rôle dans la société. Elles permettent à ouvrir les esprits et de se dire que le statu quo ne fonctionne pas. On a déjà réduit le nombre de voitures par personne dans la nouvelle génération et qu'on a déjà abandonné l'idée qu'il est absolument nécessaire d'être propriétaire d'une voiture pour être heureux. Et Tesla a créé la première voiture pour avoir des grands rendements. C'était pour se défaire de l'image que les voitures électriques sont seulement des voiturettes de golf glorifiées. On voulait que la voiture Tesla soit la voiture la plus épatante sur la route pour que le monde prenne au sérieux l'idée d'une voiture électrique. Est-ce qu'il y a une solution intéressante par rapport à la production de chaleur et d'électricité combinée? Par rapport à la pollution sera mieux que le charbon dans une usine de production d'électricité centralisée. Nous sommes en train d'étudier les effets sur la santé avec le système décentralisé par rapport à l'usage du charbon. Le charbon crée des particules et du mercure dans l'air. J'espère que d'un point de vue de pollution, les systèmes combinés sont mieux. Ils ont une empreinte de carbone plus intéressante par mégajoule d'énergie. Par rapport à la sécurité des systèmes combinés de production de chaleur et d'électricité, je ne crois pas que ce soit très problématique. On a une fournaise dans une maison qui pourrait s'enflammer ou exploser. Et je pense que pour les personnes qui ont une fournaise à la maison, on parle de leur fournaise. Il y a des façons de concevoir des fournaises sécuritaires. On parle de l'Internet des objets. Il y a beaucoup de turbines qui doivent être surveillées, s'assurer qu'elles sont entretenues. Donc, la centrale peut appeler le résident, dire, je suis dans mon cycle de conception et ça fonctionne pas très bien. Donc, il y a des personnels d'entretien qui font des visites à domicile pour s'assurer que les turbines fonctionnent. Et il y a une meilleure résilience. Si une usine tombe en panne et il y a des quartiers entiers qui sont dépourvus. S'il y a une turbine décentralisée qui tombe en panne, d'autres peuvent être utilisées pour compenser. Pour les véhicules électriques, les véhicules électriques peuvent être polluants, mais selon des études, avec la génération d'électricité actuelle, même en utilisant le charbon, les voitures électriques sont plus écologiques que des voitures à essence. La question, c'est que le véhicule à combustion interne a une efficacité très faible. Les moteurs électriques sont beaucoup plus efficaces. Et bien sûr, il faut penser à la façon dont on produit l'électricité. Chris parlait de l'énergie éolienne. Avec l'énergie éolienne, on peut vraiment réduire son empreinte écologique. Merci. C'est très bien d'avoir l'intérêt. Étant donné nos contraintes de temps, nous avons le temps pour une dernière question. J'aimerais vous remercier de vos présentations. Ma question concerne sur la façon de créer un engouement. Et comment qu'on peut créer un changement de paradigme vers un mode de vie durable? Quelle serait l'étincelle pour ce changement? Surtout pour rendre la population plus ouverte au changement. On veut tous le changement en ce moment, mais il s'agit davantage plutôt à long terme, alors qu'on vit dans une société qui cherche une gratification immédiate. Comment peut-on convaincre les personnes qu'il y aura un avantage à long terme, même s'il y a plutôt des inconvénients à court terme dans l'adoption d'un mode de vie durable? C'est une question très intéressante et très importante. Ça fait au moins 20 ans qu'on est au courant du problème. Il y a eu plusieurs bonnes solutions proposées, mais l'adoption est loin d'être universelle. Je ne crois pas qu'il y a un seul vecteur. Je crois que ce sera plusieurs conversations qui différeront selon le lieu où elles se produisent. Mais ce ne sera pas un processus coercitif, comme nous pouvons le voir dans d'autres domaines. Je vais essayer de vous donner un exemple concret. Je me suis penché sur le programme de durabilité de Walmart. C'est qui avait été accueilli avec beaucoup de scepticisme. On peut dire qu'il y a beaucoup de choses dans leur modèle d'affaires n'est pas durable, l'utilisation du territoire n'est pas durable. Mais j'ai parlé à certains consultants qui travaillent avec Walmart. Ils se sont rendus compte que même dans une seule entreprise, je vous dirais que c'est Walmart. C'est une énorme entreprise. Mais dans chaque unité d'affaires, des conversations différentes. L'ancien chef du club CRA, qui avait été considéré comme un traître quand il a commencé à travailler chez Walmart, il faisait la consultation au niveau des magasins sur la durabilité. Il disait, allez dans les magasins, on donnait au gestionnaire de magasin l'opportunité de parler des initiatives de durabilité. Et on pensait qu'on allait libérer les travailleurs opprimés de leur chaîne. Et ce qu'ils avaient trouvé dans les magasins, c'est que les personnes étaient fières de leur emploi. Que ce qu'il s'agissait de bon emploi ou non, les personnes aimaient leur emploi. Et si on faisait juste demander aux personnes de parler de leur durabilité, certaines personnes disaient on doit s'organiser pour avoir des passes d'autobus mensuelles sans avoir à conduire pour se rendre aux voitures. D'autres personnes parlaient d'initiatives de santé personnelle, d'arrêter de fumer, de faire de l'exercice. Mais peu importe, ces discussions devenaient toujours arriver d'elles-mêmes. On ne peut pas les forcer. Il y a certaines personnes qui vont être attirées vers la durabilité pour des motifs personnels. D'autres personnes seront attirées par la durabilité parce qu'elles sont complètement tannées de leur voyage au quotidien pour son travail. Donc, je crois qu'il y a différentes sources pour entamer ces discussions. J'aimerais ajouter qu'on ne peut pas sous-estimer ce que les jeunes veulent vraiment. Je me souviens, j'avais donné une présentation à la classe de quatrième année de ma fille sur les changements climatiques. Toutes les jeunes étaient très enthousiastes par rapport à l'avenir. Ils étaient tous très attristés par le lendemain, lorsque je suis revenu du travail, ma fille me demandait « Qu'est-ce que tu fais à propos de tous les problèmes dont tu nous as parlé? » Mais, plus proche des adultes, il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent pas être associés avec des communautés qui gaspillent leurs ressources. Ces jeunes veulent exactement ce dont on parle là aujourd'hui. Donc, ce ne sera pas seulement de pousser, ce sera plutôt l'effet de tirer qui apportera le changement. Sur cette note, je voudrais vous partager quelques mots de conclusion. Je m'excuse pour les personnes qui n'ont pas eu l'opportunité de poser la question. Demain, nous avons une autre soirée à la même heure, au même endroit. Et l'année prochaine. Le deuxième symposium annuel sera tenu à Polytechnique le 4 et 5 mai. Donc, je vous incite à marquer ces dates dans vos calendriers. J'aimerais partager quelques brefs mots sur comment vous pouvez vous connecter avec nous. Nous avons plus de 50 membres professeurs qui participent à la recherche sur la durabilité. Des professeurs qui travaillent avec diverses organisations. Il y a différents enjeux de durabilité, transport urbain, développement urbain, énergie renouvelable et aviation, et les technologies de l'information. L'enseignement est un de nos grands mandats. Et ce que j'aimerais dire avant toute chose, c'est qu'il y a différentes façons de se connecter avec l'Institut de l'énergie Trottier. Je vous incite à visiter notre site web. Il y a différentes façons de vous impliquer. J'annoncerai sous peu sur le site web des séminaires qui seront organisés dans un avenir prochain. Miguel et moi-même aimerions exprimer certains remerciements en guise de conclusion. J'aimerais partager mes sincères remerciements aux organisateurs, certains membres de l'IOT, du TICED, de McGill et de Polytechnique Montréal, différentes personnes qui ont travaillé derrière les coulisses pour l'organisation de cet événement, à la fois du côté de McGill et du côté de Polytechnique Montréal. J'aimerais remercier Lauren Plamy et tous nos étudiants bénévoles dans leurs efforts pour organiser ce symposium. Donc, je vous invite à revenir demain soir pour d'autres présentations fort intéressantes sur les industries durables, à la même heure, au même endroit. Merci. Bonsoir.